Bonjour à toutes et à tous. Merci, cher Philippe Labreau, de venir dans cette magnifique salle Station Ozone de la librairie Mola. Vous connaissez très bien cette librairie parce que, vu votre palmarès d'écriture, vous connaissez la librairie. Et vous nous livrez aujourd'hui un ouvrage très personnel. Alors, vous avez l'habitude aussi dans votre œuvre de propos et de textes personnels. Mais là, évidemment, on est vraiment dans l'intime. Au sens presque étymologique, hein, intimus, sur le cœur. Ma mère, c'est inconnu. C'est à la NRF de chez Gallimard, évidemment. Votre maman, Henriette Cazirey, dite
Carizet.
Carizet, voilà, ouais. Ça commence par une dyslexie. Carizet, dite Netka. Elle est décédée dans sa 100e année, le 22 novembre 2010, à Nice.
Ouais.
Et vous, Philippe Labreau, vous êtes né. Et vous avez un point commun avec Daniel Cohn-Bendit à Montauban.
Bien sûr.
Hein, bien sûr. Enfin, c'est un des points communs, il y en a d'autres.
Montauban est une ville mythique.
Voilà. Le 27 août 36. Bien. Alors, je commence un peu par le... De manière un peu peut-être désordonnée, hein, pardon, mais page 175, vous vous rappelez que vous avez écrit les paroles de la chanson de Johnny, Sarah,
ouais.
Au début des années 70, et puis avec ces paroles que votre mère... va vous renvoyer 20 ans après que vous les ayez écrites.
Plus que ça, même.
Plus que ça.
J'ai dû écrire « Ma jolie Sarah », qui est une des rares chansons, d'ailleurs, que Johnny Hallyday chante encore aujourd'hui.
Ce que vous dites dans le texte.
Une de mes petites fiertés. Et c'est une adaptation d'un thème américain. Et j'ai dû l'écrire en 74. Hein.
Ah oui, c'est
et
ça.
Et quand ma mère me fait cette extraordinaire allusion à la chanson, il faut que je vous raconte, si vous n'avez pas lu le livre... J'ai une tendance, malheureusement, à détester être en retard. Et donc, j'allais voir ma mère qui vivait à Nice, veuve. Son mari étant mort en 83. Elle a survécu 27 ans à Jean. Je croyais, moi, qu'elle disparaîtrait 8 jours plus tard, tellement c'était un couple fusionnel et lié depuis 50 ans. Elle est restée pour ses enfants, ses petits-enfants. Bref. Donc, je vais la voir de temps en temps, tous les 2-3 mois... comme tous les adultes, j'ai ma propre vie, j'ai mes préoccupations, mes occupations professionnelles. Donc, l'égoïsme classique d'un adulte qui, enfant, qui n'est plus enfant et considère que ses parents sont là, ça va. Hein. On s'aperçoit de leur importance ou du manque de dialogue qu'on a pu avoir avec eux que lorsqu'ils disparaissent. Bref, j'arrive et en général, vers 15-16 heures, je commence à regarder ma montre alors que l'avion du retour est 19-20 heures. Ce qui exaspère sans doute tout le monde, et en particulier ma mère, mais elle ne dit rien. Bien. Je l'embrasse, je t'aime, ma chérie, je reviendrai te voir, oui, bien sûr. Ça fait quand même 3 mois que tu n'es pas venu, oui, oui. Donc, début de culpabilisation typique de toutes les mères. Et je vais vers la porte pour ouvrir la poignée, là-dessus, je l'entends me dire « Merci, merci pour ton effort ».
Alors, c'est ces paroles.
Il se trouve que dans ma jolie Sarah, qui est au fond un homme qui attend... que Sarah lui donne son corps, premier couplet. Deuxième couplet, la pauvre Sarah. Premier couplet, c'est ma jolie Sarah. Deuxième couplet, ma pauvre Sarah, tu m'as donné ton corps. Merci, merci pour ton effort. Ce qui est évidemment d'une misogynie indécente. Enfin, sans doute à l'époque, avais-je quelques raisons de l'être. Bien. Et elle m'envoie ça, ça me cloue au sol, parce que je me dis, attention, elle est en train de me dire, d'abord, qu'elle a une mémoire telle qu'elle se souvient de tout ce que j'ai pu faire ou écrire. Car effectivement, ma mère, quand elle est morte, j'ai reçu toutes ses archives, il y avait à peu près ça, de coupure de presse me concernant. Elle avait tout ce qui concernait son fils, comme les autres d'ailleurs, puisque d'autres enfants, mes frères, ont fait aussi des choses intéressantes. Je me dis donc d'abord, mémoire incroyable. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle me dit là ? Elle est en train de me dire, oui, ça va, t'es venu, oui... T'es resté une demi-journée, ça fait 3 mois que t'es pas venu, merci pour ton effort. Donc ça n'est pas une critique, c'est pas un jugement, mais c'est quand même aussi une illustration de ce que j'ai toujours vu chez elle, une propension à, non pas l'ironie, mais disons un sourire un peu critique.
Un petit peu aussi, pardon, hein, c'est pas forcément un défaut, mais on va y revenir, un peu manipulatrice aussi, hein, mais ça c'est autre chose, on reviendra là-dessus.
Ouais,
mais... Alors c'est à l'occasion de cette évocation de « merci pour ton effort », juste après, vous posez la question centrale du livre, c'est pour ça que je commence par cette partie-là. « Ai-je assez aimé ma mère ? Aimons-nous assez ceux qui nous aimons ?» Et j'attends votre réponse, parce que mon texte, ça reste suspendu.
Oui, c'est la question. vous sortez de là, donc bon, ça m'a fait réfléchir. D'ailleurs, ce soir-là, j'ai raté la navette. Je suis resté plus longtemps, quand même. Bon. Mais ensuite, c'est une phrase qui m'a hanté. Aimons-nous assez ce que nous aimons, non pas ceux qui nous aiment, ceux que nous aimons. C'est une question que, je crois, se pose chaque fois qu'un parent disparaît. On se dit, l'ai-je assez vu ? L'ai-je assez interrogé ? Lui ai-je assez parlé ? L'ai-je assez même caressé, embrassé ? Ai-je été assez proche ? Parce que c'est très gentil, les coups de téléphone, les lettres, tout ce qu'on veut, mais il y a la proximité, il y a le baiser sur la joue, il y a prendre la main d'une dame très âgée déjà et lui transmettre votre tendresse et votre affection. L'ai-je assez fait ? On ne l'a jamais assez fait. Ma vraie réponse est non, nous n'aimons jamais assez ce que nous aimons. C'est-à-dire que y a un manque, enfin il y a, disons, une restriction de l'amour qui est due aux égoïsmes de nos propres vies. On ne peut pas non plus passer sa vie auprès de ses parents. Mais ça m'a beaucoup interrogé au point que c'est une phrase qui m'a hanté jusque même au jour où nous avons enterré ma mère dans le cimetière où était reposé déjà mon père. Mais je pense que c'est une question universelle, ce qui ne me concerne pas forcément. Elle concerne tous ceux qui se disent « Me suis-je mis assez en face de mon père pour lui poser des questions sur sa vie, son expérience, son savoir ?» Puisqu'après tout, les parents sont possesseurs d'un savoir plus riche et plus fort que le nôtre.
Mais votre père, Jean, on va aussi en y revenir, vous a dit beaucoup de choses, lui. Vous a écrit des choses.
Oui, oui, c'était un homme, il était conseiller juridique et fiscal, mais en fait, c'était un lettré. Oui. D'ailleurs, il aurait voulu sans doute exercer le métier que j'exerçais, puisqu'il a écrit à Montauban, publié à Toulouse par une maison d'édition qui s'appelait Didier, plus ou moins à mon compte d'auteur, 3 livres. Dont les titres définissent la nature de mon père. Oui. Premier titre s'appelle « Dénuement », deuxième titre s'appelle « Le geste de Caïn », troisième titre « La voix sans issue ». Donc on ne peut pas dire que c'était un optimiste. C'était un homme, un grand homme, un héros, qui a pendant l'occupation eu des gestes extraordinaires, dont on parlera sans doute, et une figure pour nous, les enfants, les 4 garçons, comme un monument. Et nous, même entre nous, d'ailleurs, nous l'appelions Pessimo.
Ah oui.
C'était le surnom qu'on donnait à papa. Bon. Et donc, il avait les lettres en lui, il avait une vocation d'écrivain, et il écrivait très très bien. Il écrivait de cette très belle écriture des années 20, 30, 40, qui n'est plus du tout la même, ou presque. Il y a très peu d'écrivains français aujourd'hui qui écrivent comme ça. C'est un peu la limpidité, la fluidité des grands romanciers du début du XXe siècle. Les Françaises, c'est Jules Romain, Duhamel, Anatole France.
André Mauroy.
André Mauroy, voilà. Et donc, il m'a écrit effectivement beaucoup de lettres, dont une, lorsque j'étais en Algérie pendant la guerre d'Algérie, où je pouvais risquer ma vie comme tout soldat là-bas. Et sans doute parce qu'il considérait que la mort n'était pas très loin de moi, qu'il a eu le besoin, il a senti le besoin de m'écrire pour me parler de ma mère. Il l'appelait d'ailleurs jamais ta mère, il disait votre mère, puisque nous sommes 4 garçons. C'est une fratrie.
Vous êtes dans quelle position dans la fratrie ?
Troisième.
Troisième.
Aujourd'hui, le deuxième, puisque l'aîné a malheureusement disparu. Et donc, dans cette lettre, il y avait une description de comment il avait découvert, comment il avait rencontré sa femme, Netka, qui avait 20 ans de moins que lui. C'est un de ces couples merveilleux où tout d'un coup, la différence d'âge, au fond, apporte quelque chose de très précieux à cette femme qui a été abandonnée, on va en parler, pendant les 20 premières années de sa vie. Il devient donc à la fois son amant, ensuite son mari, ensuite le père des enfants, mais d'une certaine manière, son père de substitution. Et dans cette lettre, effectivement, il y a 2-3 formules, 2-3 phrases qui sont superbe, et je les cite d'ailleurs dans le bouquin.
Alors, un dernier mot sur vous, avant de, j'allais dire, de rentrer dans l'histoire, parce que c'est une vraie histoire.
Ah, ben c'est un roman.
Comme dit votre maman, il y a une histoire.
Hein. Ben oui. Non, au début, je lui dis, mais pourquoi ? Parce que je lui posais des questions, bien sûr, parce qu'on voulait savoir. Parce que pendant très longtemps, elle était dans le déni. Elle ne voulait pas nous raconter ce qui lui était arrivé, d'où elle venait, qui était son père, etc. Et je, comme je suis journaliste et que moi, je prends des notes parce que j'ai, toute ma vie, j'ai pris des notes parce qu'on croit qu'on se souvient de tout, on se souvient de rien du tout. Il vaut mieux noter, sauf à être hypermnésique, ce qui n'est pas mon cas. Et donc, je ferai quelques notes. Elle me dit, pourquoi tu écris là? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en face d'elle, comme,
dans le carnet de
comme un journaliste.
Dans votre carnet de Moleskine.
Oui, comme un journaliste ou un flic. Bon. Et je lui dis, mais parce que un jour, maman, un jour, je raconterai ton histoire. Mais il n'y a pas d'histoire, me dit-elle. Tu parles.
Alors,
il y avait effectivement une histoire.
Un jour, je raconterai ton histoire. Vous écrivez vous-même, c'était unanime. Alors, dans ma famille, un jour, Philippe racontera l'histoire de Mamika. Hein, c'était comme ça que vos enfants, les petits-enfants.
Oui, Mamika, Netka.
Voilà. Mamika, Netka, la bâtarde, au sang polonais, qui ne connaissait ni son père ni sa mère, et qui fut pour nous et toute notre descendance un modèle de générosité, d'altruisme et de tolérance. Et vous mettez en exergue de votre ouvrage cette belle citation d'Albert Cohen. Voilà, j'ai fini ce livre et c'est dommage. Pendant que je l'écrivais, j'étais avec elle et c'est le livre de ma mère, qui est un très beau livre, un des plus beaux livres de Cohen.
Ouais.
Quand vous relisez le livre, quand vous parlez du livre, est-ce que vous prolongez ce bonheur d'avoir écrit sur elle, est-ce que ça vous donne encore le sentiment d'être avec elle?
Ah oui, complètement. Bon, de toute façon, on est toujours, je crois qu'on est toujours quelque part dans le flot de pensée qui vous traverse toute la journée, d'une certaine manière, avec ceux qu'on a aimés qui ont disparu. En tout cas, je pense que c'est comme ça qu'on doit vivre. Mais elle, en particulier, bien sûr, ayant travaillé sur le bouquin, ayant classé mes notes, ayant fouillé dans les archives qui m'ont fait découvrir véritablement sa vraie nature, d'où ça venait tout cela. Le livre est sorti le 30 mars dernier. Depuis, il ne se passe pas deux jours sans lequel je me consacre à ce genre d'exercice, soit à la télévision, soit à la radio, soit devant une salle comme la vôtre. Et donc, évidemment, je suis tout à temps complètement avec elle. Elle m'habite encore plus qu'avant, ce qui ne me dérange pas du tout, au contraire. Elle est là. Je la vois, quoi, je l'entends.
Vous dites qu'aujourd'hui, on peut à peu près tout reconstituer, c'est autant de matière à roman. Alors, l'enquête, c'est Netka, hein, qui est la fille bâtarde d'un potentat polonais, Henryk de Schlesien. Et en fait, leur palace, la famille de Schlesien vit dans un palace, mais on est... C'est compliqué parce que la carte de l'Europe centrale a sans arrêt bougé.
Ouais.
Donc on est dans ce qu'on appelle la Russie, la Pologne de Russes, la Pologne.
La Biélorussie.
Aujourd'hui la Biélorussie, ouais. Mais à l'époque
c'est la Pologne russe.
La Pologne russe. Hein. Ouais. J'ai même retrouvé, enfin vous donnez le nom du village. Hein,
vous arrivez à le prononcer?
Oui, Dziewiatkowice.
Bravo. Mais vous avez des origines polonaises?
Non, mon épouse.
Mais bon, ah ben voilà.
Bien obligé de.
Il y a beaucoup de Pologne en France.
Hein. Oui, oui, oui.
Beaucoup d'ascendants.
Mais la Pologne d'aujourd'hui, cette ville se retrouve, en fait, c'est en face Białystok,
ouais.
Et c'est côté biélorusse. Hein, et donc, c'est un autre monde, hein, évidemment.
Ah, oui,
hein,
bien sûr.
Un autre monde. À l'époque, quand Henryk de Schlesien rencontre la maman,
Marie-Élise. Hein, la mère de ma mère.
C'est un autre monde. On est effectivement, comme dit Stefan Zweig, c'est le monde d'hier. Quoi,
exactement. Hein,
comment cette rencontre improbable se fait? Marie-Élise, vous pouvez nous en dire quelques mots? La maman de
votre maman. C'est là que réside le plus grand mystère. Sur le mystère de la vie de ma mère, je l'ai à peu près éclairci. Pas seul, avec l'aide de mes frères. Et quand vous dites que la famille me disait « il faut que tu racontes l'histoire de maman », c'est pas seulement la famille, c'est-à-dire les frères et les enfants ou petits-enfants, c'est ma femme, Françoise, qui est une influence considérable dans ma vie, qui est une
grande actrice,
très lettrée, grande psychologue, m'a toujours dit « tu dois un jour raconter l'histoire de Netka ». Bien. Parenthèse ouverte et fermée. Alors, la question c'était comment ils se sont rencontrés.
Oui.
Mais justement, je ne sais pas. C'est ça qui est extraordinaire. C'est autant j'ai à peu près éclairci la vie de ma mère, autant je ne sais pas comment. Une institutrice appelée Marie-Élise Carizet, née dans le Doubs, à Émagny, une ville à peu près grande comme ça, dans le tout près de Besançon.
Elle-même fille.
Elle-même enfin, fille.
D'une
fille de ferme.
Oui.
Née, elle aussi.
Trois générations.
D'un père inconnu. Et la mère de cette mère, son arrière-arrière-grand-mère, elle aussi, parce qu'il faut bien voir, vous parlez de l'époque, à l'époque, dans les fermes, les métayers il culbute les femmes de ferme, les filles de ferme, et puis voilà, et puis il reconnaît jamais l'enfant.
Non, c'est vrai.
Jamais. Donc voilà, déjà, ce qu'on appelle en termes psychiatriques ou psychanalytiques, une filiation, une filière. Il y a une trace. Bon. Et donc, comment cette jeune femme, qui déjà d'ailleurs me passionne, parce qu'elle, comment est-elle elle-même devenue institutrice, sortant de cette ferme? Bon, ça, je ne le sais pas. Toujours est-il que nous savons qu'elle était institutrice, nous savons par toutes sortes de gens qui l'ont quand même rencontrée, et des témoignages. Comment rencontre-t-elle ce comte polonais, qui vit effectivement dans ses propriétés? Il y avait 40 magnats, on appelait ça des magnats, une quarantaine, qui possédaient la Pologne.
La Pologne russe, hein, parce que
oui, c'est très la Pologne russe.
Oui, hein, la Pologne, il faut bien comprendre, est divisée en trois morceaux. Hein.
Oui.
Partie russe, Varsovie, mm-hmm. la Pologne de l'Est aujourd'hui, la partie allemande, mm-hmm. ça c'est à l'époque Wrocław, aujourd'hui Poznań, hein, Posen, Breslau, et puis la Silésie, et puis la partie sud, c'est l'Autriche. Hein. Mm-hmm. Et le point de concours est au sud de l'Autriche, de la Pologne aujourd'hui, entre Katowice et Cracovie. Et donc, c'est vraiment oui. un pays qui est complètement morcelé depuis 1792.
Bien sûr. La Pologne a été en permanence morcelée, traversée par toutes sortes de courants et d'autres nations. Bien. Donc, comment ils se rencontrent, on ne saura jamais. Moi, je ne peux pas savoir. Ce que je sais, ce que nous savons, c'est qu'à Paris, il y avait beaucoup de Polonais qui venaient pour l'opéra, le théâtre, les mondanités. Il y a des familles polonaises qui ont des hôtels particuliers à Paris. Mon frère Claude, un de mes frères qui lui aussi m'a aidé dans mes recherches, a découvert au cimetière Montparnasse une tombe avec le nom Slizienne, qui est sans doute mon arrière-grand-mère côté maternel.
Hein.
Ouais. Donc, ils ont dû se rencontrer sans doute à Paris. À quelle occasion? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe entre cette jeune femme et cet homme assez jeune, hein, il a une trentaine d'années, hein, marié, père de 5 enfants. Donc on est dans l'illégitimité totale. Il se passe de l'amour. Bien. Une liaison.
Et pour se situer, on est vers 1908, par là.
Oui, sans doute. Hein, oui, puisque ma mère naît en
1910.
10, voilà.
Et puis votre oncle, Henri, mon oncle, en 1909.
Hein, oui. C'est ça aussi qui est intéressant. S'il s'agissait simplement d'une liaison, hein, coup de foudre, on fait l'amour, on se voit 3-4 fois, au revoir. Mais là, ils font 2 enfants.
Et qu'elle l'appelle le garçon
le
Henri.
Le garçon s'appelle Henri,
et votre maman
comme
Henri.
Le père, oui. Henrik. Oui. Et ma mère, il l'appelle Henriette. Ça veut dire qu'il y a, entre ces deux êtres tout à fait dissemblables, un lien très fort qu'on peut définir par l'amour, un point à la ligne. Bon, il n'empêche que, une fois qu'ils ont fait ces 2 enfants, le père, évidemment, ne peut pas les reconnaître, parce qu'à l'époque, on ne reconnaît pas les enfants illégitimes. D'autant qu'il y a la famille, il a 5 enfants, et on est en Pologne, on est dans le monde de l'aristocratie polonaise. Et d'ailleurs, ça c'est un peu, il y a des rumeurs, et c'est un véritable scandale. Bon, puisque même on parle de cette institutrice comme de la Suissesse.
Alors pourquoi la Suissesse?
Pourquoi la Suissesse? Parce que ils vont, une fois que les enfants sont nés, les livrer, littéralement, comme on livre une valise, c'est pour ça que je les appelle des enfants valises, à une dame qui s'appelle Mani, qui possède une petite pension où elle s'occupe d'enfants... abandonné, parce que quand même, nous sommes dans ce qu'on appelle, là encore en termes psychiatriques, l'abandonite. Bien. Et ça se passe en Suisse, à Genève.
Alors, on va vite, parce qu'en réalité, il faut peut-être dire quelque chose, votre oncle Henri est enregistré à l'état civil de Villepinte,
ouais.
en région parisienne,
ouais.
et puis votre maman, alors là, c'est le bouquet, si je puis dire, à Dresde. En Allemagne, en 1910.
Alors, pourquoi va-t-elle accoucher à Dresde?
D'où vient-elle? Ça, on ne sait pas du tout.
Non, mais pourquoi sa mère va-t-elle...
D'où vient-elle? Dans quel sens est-ce
oui. qu'elle vient? Oui, est-ce que Dresde, vous qui semblez connaître la géographie polonaise mieux que moi...
Dresde, c'est en Allemagne aujourd'hui. Hein.
Oui, non, mais j'entends bien. Mais est-ce que c'est bien loin de l'endroit où habitait ce comte?
Ah, ben oui, il y a 1200 kilomètres.
Oui, mais enfin, c'est moins loin que Villepinte.
Oui, enfin, Villepinte, la Pologne, c'est le double, en gros, pour faire simple.
Hein, bon,
Villepinte-Dresde, c'est à peu près la même distance que Dresde-la Pologne.
Non, mais ça fait tout ça un amoncellement de questions, d'interrogations. Certaines, j'ai obtenu des réponses. D'autres, comme je me suis mis à écrire ce livre et que j'ai considéré qu'on ne pouvait pas l'écrire comme un roman, puisque c'est tout ça est réel et vécu, donc c'est pour ça que nous avons mis sur la couverture récit. Mais, néanmoins, comme les 20 premières années de la vie de ma mère, je suis pas là. Lorsque, à 14 ans, elle se fait humilier dans une salle de classe, parce qu'on découvre devant les autres élèves, et on le dit, un professeur sadique le dit ouvertement, « Tiens, mademoiselle Carizet, vous êtes née de père inconnu. » Bon, elle a 14 ans, je suis pas là, bien sûr. Donc le romancier, à ce moment-là, prend en compte le fait qu'une vieille dame qui a connu la marraine, qui s'était occupée aussi de mon oncle et de ma mère, m'a simplement dit, elle a vécu une humiliation très forte un jour, à l'école, on lui a dit que. C'est tout. Donc, à partir de là, à partir de cet événement, et c'est ça le roman, hein, je construis la scène, je l'imagine, je l'invente. C'est pas un mensonge, c'est pas tout à fait de la fiction, mais ça repose sur du réel.
C'est ce qu'on appelle un peu l'autofiction.
Oui, on peut appeler ça comme ça, moi j'appelle ça une écriture romanesque. Et j'ai fait cela pour plusieurs séquences dans le film. Dans le film, vous voyez.
Oui.
Parce que, effectivement, pardon, mais c'est pas par hasard que je dis ça, parce que j'ai un peu construit cette affaire, ce bouquin, comme un film, c'est-à-dire avec des séquences, des moments forts, qui, selon moi, graduent et rythme et ponctue la vie de cette femme.
Il y a un côté tout à fait documentaire, on suit comme une enquête, vous menez une enquête.
Oui, mais encore une fois, et c'est une de mes, comment dirais-je, je le réclame, j'en suis d'ailleurs plutôt content, j'y ai mis la fiction. Hein, quand par exemple, beaucoup plus tard, une fois qu'elle a rencontré mon père, elle doit briser une liaison car elle a eu deux ou trois histoires d'amour avant de rencontrer mon père. La scène de la rupture avec le jeune homme qu'il adorait, le jeune étudiant qu'il partageait.
Et les scouts qui sont autour, là.
Ouais, dans une gare, quelque part entre Annecy et Paris, tout ça, c'est du roman. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est de partir, si vous voulez, d'une chose vécue, je sais par ces lettres, puisque tout ça, je le trouve dans les lettres. Quand j'ai trouvé, j'ai récupéré 700 lettres. C'est ce qui est merveilleux aussi, c'est une autre époque. On s'écrivait. Il n'y avait pas les mails, il n'y avait pas les textos, il n'y avait pas les SMS, il n'y avait rien de tout ça. On se téléphonait même pas.
Le téléphone, il sonnait deux fois par an.
Étrange. D'ailleurs, qui sonnera à la fin du livre. Donc, c'est à travers les lettres que vous recevez, que vous comprenez ce qui s'est passé. Et elle écrit une lettre à Jean, qui est devenu son amant, avant de devenir son mari, pour lui dire, il va falloir que je rompe. Et il lui dit, mais faut-il vraiment que tu ailles le voir?
Tu peux lui écrire.
Tu peux lui écrire, c'est tellement douloureux de se faire entendre dire, c'est fini. Et elle dit, non, mais elle a comme un sens du devoir. Et donc elle rencontre ce garçon dans le bistrot d'une gare, dans la buvette d'une gare. Et ça, c'est une scène que j'ai complètement inventée. Je sais qu'elle l'a rencontré, un point à la ligne. Donc c'est ça qui est intéressant, selon moi, c'est le mélange de fiction, d'observer, vécu, de rapporter. Mais ça, la technique, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'essayer de transmettre des moments, des sentiments, et qui construisent une personne, qui font un portrait. Puisqu'au fond, ce livre est le portrait d'une femme. D'une femme assez singulière, assez exceptionnelle. Il y a beaucoup d'autres femmes ou d'autres garçons qui ont vécu le drame de l'abandon. Mais elle, sa singularité, c'est la Pologne, c'est l'institutrice, c'est ensuite...
Alors surtout qu'on va venir à deux femmes qui sont dans la trajectoire de votre maman. C'est Mani d'abord. Ça, c'est l'épisode suite, Genève, jusqu'en 1919. Et puis là, tout d'un coup, brutalement, alors que votre oncle et votre maman sont très heureux, semble-t-il, avec cette dame, Mani, présentée comme une amie de ma mère qui garde des enfants.
C'est une mère de substitution.
Une mère de substitution. Ouais. Tout d'un coup, réapparaît Marie-Élise et elle les retire. Deuxième abandon terrible. Et puis. Pourquoi les retire-t-elle?
Parce qu'on est en 1920.
Alors voilà, dites-le.
Et que les bolcheviks ont envahi la Pologne, c'est la grande révolution en Russie, et ont détruit le monde ancien, dont parle Zweig, des aristocrates, et en particulier ont enterré vivant Henrik de Slizen. Et la légende veut qu'il a même été enterré vivant sur son cheval. Mais ça, c'est une légende. Bien. Donc.
Alors qu'il payait la pension.
Donc c'est Slizen qui, évidemment, finançait le pensionnat des deux garçons, des deux enfants, pardon. Et donc, il meurt, la source de revenus se tarit. Même si Marie-Élise a sans doute conservé un petit pécule, une petite poche, Elle sait qu'elle ne va plus pouvoir payer Mani. Donc elle vient reprendre les enfants pour les emmener ailleurs, à Versailles, dans une pension où c'est sans doute moins cher. Et puis c'est en France, et après tout, ce sont deux enfants français. Et elle les redonne à quelqu'un d'autre qui vivra ensuite le deuxième rôle de deuxième mère de substitution, qu'on appelle marraine, que j'ai connue. Mais elle, elle ne s'occupe pas. Donc, pourquoi cette femme, qui donc a dû quand même avoir la force d'amour de faire deux enfants, n'a jamais consacré sa vie au devoir maternel? Qu'est-ce que ça veut dire d'abandonner un enfant? Ça veut dire sans doute qu'elle n'avait pas la fibre maternelle, ou qu'elle trouvait ça trop lourd, ou impossible à gérer, ou que, je ne sais rien moi de Marie-Lise, c'était ce qu'à un moment donné quelqu'un dit d'elle, une aventurière. Et que bon, ben, elle laisse les enfants, puis après elle va vivre sa vie. Et elle va vivre sa vie en continuant de voir des hommes. Oui. Parce qu'après le comte, elle va se remarier quelques
avec
années
plus tard. Avec M. Tarare, en 1924.
Voilà. Donc, là encore, il y a des moments très, très impossibles à discerner et à éclaircir.
Et là, il y a une autre scène qui est très... Alors, je pense que là, on est encore dans la partie romanesque, mais c'est remarquablement bien écrit, parce que vous écrivez très bien, tout le monde le sait. Page 44-45, c'est la scène où Henri et Henriette sont blottis tous les deux, l'un contre l'autre. Et où Marraine, à Versailles, vient d'avoir un appel parce qu'elle ne peut plus les garder parce que Marie-Élise ne paye plus.
Elle ne paye plus non plus cette deuxième pension.
Elle ne paye plus cette deuxième pension, elle ne paye plus Marraine, elle ne paye plus Clotilde. Et Marraine va devoir s'en séparer.
Ouais.
Et là, elle ne peut pas parce qu'elle adore ses deux enfants,
ouais.
qu'elle dit « je n'ai jamais rien vu de semblable
ouais.
et d'aussi extraordinaire
ouais. ».
Et donc, elle va faire ce qu'elle n'a jamais fait pour tous les autres enfants. Elle en a vu passer
ouais.
à la maison de Versailles. Elle va les garder
ouais.
auprès d'elle. Est-ce que vous avez eu l'explication par Marraine elle-même, par Clotilde, ou par votre maman de ce choix qui est quand même assez incroyable?
Ben, on en revient toujours, au mot amour, il n'y a pas d'autre terme. Elle a dû aimer ses deux enfants, elle a dû sans doute s'apitoyer tellement sur leur abandon, leur solitude, leur détresse. Le mot détresse, au sens médical, on sait ce que ça veut dire. Et j'imagine qu'elle a considéré que il n'y avait pas d'autre solution que de les garder, et qu'au fond, elle aimait les garder, elle aimait les éduquer, les élever, puisqu'elle dit, effectivement, puisque j'ai récupéré des extraits de son journal à Marraine, que je cite.
Ah oui.
Elle dit, j'ai jamais vu deux enfants comme ça. Ils sont propres, ils sont sages, ils sont disciplinés.
Hein, ils sont polis, ils s'intéressent à tout.
Ils sont polis, ils s'intéressent à tout, mais ils n'ont rien. Ils ont à peine un pantalon, une chemise. Voilà. Donc, je pense que Marraine a été mue par, encore une fois, un sentiment de protection, de solidarité, d'aide. Après tout, c'est ça aussi, l'amour. L'amour, c'est des preuves. C'est ce qu'on dit toujours, je ne sais plus quel écrivain ou quel poète, qui dit « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Donc elle a prouvé son amour pour ses deux enfants. Alors, intervient aussi, ça, c'est aussi fascinant, parce que Netka donc, a déjà été abandonnée une fois, quand elle naît, on l'abandonne. Deuxième fois, quand on l'enlève de chez Mani. Et puis là, elle est chez Marraine. Henri a grandi, c'est un beau garçon.
Là, il y a un épisode.
Marraine est une Versaillaise d'une famille militaire. Elle considère que Henri a tout ce qu'il faut pour être un grand officier, être rentré dans l'armée, puisqu'à l'époque, c'est prestigieux. Il y a Saint-Cyr qui n'est pas loin. Et donc, pour qu'il entre et qu'il fasse candidat à Coëtquidan, à l'école de Saint-Cyr, il faut qu'il soit français, il faut qu'il ait des parents, il faut qu'il ait un état civil. Et donc Marraine adopte Henri, qui prend son nom, il s'appelle Henri Magny, mais elle n'adopte pas Henriette. Et je considère que c'est un autre abandon.
Alors ça, c'est votre interprétation,
bah oui.
parce que d'abord, votre maman n'a pas du tout cette lecture-là.
Non.
Elle vous dit, mais non, moi j'étais très heureuse. Pour Henri, elle me l'a pas proposé, c'est vrai.
Non, mais elle a même dit autre chose qui prouve aussi à quel point les mœurs sont changées.
Oui, tu trouveras.
Elle lui a dit tu es belle et tu es jeune, tu trouveras bien un mari.
Mais ça, c'était la mentalité de l'époque.
Mais voilà, tu trouveras bien un mari et donc tu auras un nom.
Tu seras française.
Et tu auras un nom.
Oui, voilà.
Ce qui, d'une certaine manière, est aussi un acte misogyne.
Oui,
une parole misogyne.
C'est-à-dire qu'il faut pas le lire avec les yeux d'aujourd'hui.
Non, bien sûr. Mais ma mère ne lui a jamais rien reproché à ma reine. Jamais.
Elle vous reproche à vous presque de soulever ce problème.
Oui, mais pourquoi tu poses la question ? C'est pas grave.
Alors, il y en a un autre.
Pourquoi ? Parce que j'avais une mère qui. C'est ça qui m'a toujours bouleversé chez elle. J'en parlais. Tenez-vous bien. J'ai déjeuné aujourd'hui avec deux de mes frères. Oui. Le troisième, malheureusement, notre aîné Jean-Pierre a disparu. Avec Jacques et Claude. Donc on a évidemment parlé que de ça. Mm-hmm. Et Claude me disait, je ne l'ai jamais entendu dire du mal de qui que ce soit. Mm-hmm. Elle ne voyait pas le mal, ou plutôt, elle ne voulait pas le voir.
Mm. Elle est aussi singulièrement optimiste. C'est l'inverse de votre... Enfin, c'est la figure inversée de votre papa.
Oui, c'est optima épissimo.
Et alors, vous parliez du déjeuner avec vos deux frères. Claude, dans le livre, vous en faites la recension, dit, mais arrête de la plaindre sans arrêt comme une petite Polonaise abandonnée. Pourquoi tu veux à tout prix faire ce portrait-là de la petite Polonaise abandonnée malheureuse ?
Mélancolique.
Et mélancolique.
Oui, là, c'est pas une querelle avec Claude.
Non, mais
il vous mais dit... D'ailleurs, au déjeuner aujourd'hui, il m'a dit, c'est toi qui as raison, parce que il lui a beaucoup parlé, parce que Claude vivait pas loin de Nice. Donc c'est lui, de tous les frères, qu'il a vu le plus longtemps, le plus souvent. Je crois qu'il y avait chez maman ce que j'appelle la slavitude, c'est-à-dire cette tendance polonaise, que vous devez connaître sans doute, de, non pas une mélancolie, mais oui, un goût pour la tristesse, la nostalgie, les regrets, les interrogations, l'inquiétude, la non-quiétude, la non-tranquillité. Alors moi, j'en suis habité, je suis un homme inquiet au permanent.
Et puis vous avez écrit sur la dépression.
Oui, puisque j'ai vécu deux dépressions, ce qui n'est pas rien, et que sans doute dans mon sang, sont venus des petits grains du pessimisme du père et de la mélancolie de la mère. Alors donc, j'ai dit à Claude, écoute, non, j'en fais un portrait, d'abord c'est mon portrait, c'est ma vision, et d'autre part, je raconte pas de blagues, parce que j'ai les poèmes entre les mains. Elle écrivait des poèmes, trois carnets de poèmes.
Alors, sur une courte période de sa vie, elle est empreinte d'une vraie mélancolie, avant de rencontrer votre papa, justement.
Parce qu'elle a 20 ans, elle a quitté ma reine, elle est dans une pension.
Henri est plus là.
Oui, Henri est...
Elle a une relation totalement fusionnelle avec son frère.
Ah oui, non, mais continue de le voir, mais enfin, il n'est plus là, il commence, on n'approche pas loin de la guerre, on est dans les années 30, et elle est seule. Elle est seule, elle a tous ses poèmes, jusqu'au moment où elle rencontre papa, pardon de l'appeler papa, mon père, elle est hantée par trouver de l'amour. Tous ses poèmes sont des recherches d'amour. Et donc, si tu recherches l'amour, c'est que tu n'es pas heureux. Donc, ce sont des poèmes de femmes malheureuses. Et donc, c'est ce que j'ai dit à mon frère. J'ai dit, écoute, j'ai les écrits qui démontrent, qui prouvent qu'elle était habitée, par une très grande mélancolie. Mais c'est du romantisme aussi, parce que ces poèmes, c'est l'école poétique, Lamartine,
un peu Maeterlinck,
Musset,
vous dites.
Maeterlinck, Nerval, tout ça. Parce que je découvre aussi, grâce à ces carnets, que nous avons affaire à une femme très lettrée. Parce qu'il n'y a pas que seulement les poèmes. J'ai trouvé aussi un carnet de citations. Les carnets de citations en disent beaucoup sur quelqu'un. Parce que qui citez-vous quel auteur trouvez-vous qui vous intéresse au point que vous... choisissez une phrase et vous la notez. Eh bien, elle, c'est Nietzsche, c'est Proust, c'est Zweig, c'est Paul Valéry, bien sûr, c'est Maeterlinck, c'est pas rien. Et je m'aperçois en lisant ce carnet que et on le savait pas, parce qu'elle n'étalait jamais sa culture et son savoir, que nous avions affaire à une grande intellectuelle. Puisqu'elle est devenue, une fois qu'elle a épousé mon père et qu'ils ont fait en l'espace de 6 ans,
quatre garçons.
Sur 6 ans. Elle est devenue une mère de famille. Alors, et elle a mis complètement de côté.
Elle est devenue une mère de famille, je vous interromps, mais vous parlez de la photo d'Osgore. Oui. C'est une mère de famille, mais c'est aussi une grande sœur.
Oui.
C'est assez fascinant, puisqu'elle est toute jeune maman, en fait.
Ben oui, oui.
Et de la même manière que Jean la prend un peu pour sa fille, elle est un peu votre grande sœur aussi.
Ah, mais mon père la prend tellement pour sa fille que la correspondance qu'ils ont une fois qu'ils sont mariés et qu'il y a des enfants qui sont apparus, ils ne l'appellent jamais autrement que mon enfant, mon petit, mon oiseau.
Mon oiseau.
Mon oiseau. Or, c'est pas un oiseau. Elle est faite en acier, cette femme.
Oui, on va le voir. Oui.
Parce qu'elle a de la résilience.
Alors, il y a un événement fondateur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est cette attitude de ce prof qui se révèle un vrai salaud et qui révèle, donc, devant la classe du pensionnat, que c'est une fille née de père inconnu. Et vous dites, vous avez une très belle phrase à propos des conséquences du sentiment de honte que votre mère a éprouvé à l'occasion de cet épisode. J'en suis venu à me demander, c'est vous qui écrivez, là, si la honte éprouvée pendant et après cette épreuve n'expliquait pas tous les silences de ma mère devant nous. L'orgueil, ou plutôt la fierté, l'ont poussée à tout taire. Elle avait honte d'avoir eu honte. Il est des moments qui ne durent pas plus d'un moment et qui durent le reste d'une vie. Est-ce que vous avez vécu ça, vous ?
Oui, bien sûr.
Des moments qui ne durent qu'un moment et qui restent toute
Mais une nous vie. L'avons tous vécu. La mémoire, c'est un tamis. Si vous gardiez tout, vous devenez fou. Si vous avez toute votre vie, tout le temps qui arrivait, c'est un problème d'équilibre et d'ordre. Donc, le tamis, il ne reste que 3 ou 4 pépites. Mais elles ne sont pas forcément importantes. Sauf qu'elles le sont, puisqu'elles sont restées. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas des événements monumentaux, forcément. Ce sont des moments, ce sont des phrases, ce sont peut-être un début de rencontre, ou un échec, ou une erreur, qui tout d'un coup prennent un volume considérable avec les années. Ça s'appelle tout simplement l'expérience. Votre jugement. Moi, je pense que il faut d'abord comprendre dans la vie. Il ne faut pas juger. Il faut comprendre. C'est plus important même que savoir.
Elle vous le dit, ça.
Ah ben oui, mon père me le disait aussi. Quand je suis rentré dans le journalisme, j'étais jeune, insolent et arrogant, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Mais enfin, j'arrivais là dans la presse, j'ai débarqué des États-Unis, je me croyais le prince en imperméable blanc. Et il m'a dit, écoute, ne rentre jamais dans le camp des juges. Essaie d'abord de comprendre. Après, éventuellement, tu peux juger. Bon. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire avec maman. J'essaie de la comprendre, sans la juger.
Alors quand vous dites, elle a peut-être eu honte d'avoir eu honte.
Oui, oui, ben ça c'est mon interprétation.
Ouais.
Et par conséquent, la vie, c'est un millefeuille. Il y a des... Et bien souvent, c'est la couche inférieure du millefeuille qui est importante.
Oui,
et en général, c'est l'enfance.
Même les pâtissiers le disent, c'est essentiel. Hein,
voilà. Voilà. Donc c'est l'enfance. Donc c'est la première expérience forte. Le premier baiser, la première trahison, le premier chagrin. Le premier amour, la première découverte d'un musicien qui tout d'un coup vous ouvre une vocation. Je crois que les premières fois sont capitales. J'émets une énorme banalité, bien sûr, mais nous sommes là pour écouter des clichés, des banalités. Mais ça, c'est aussi ma théorie, c'est que si ce sont des clichés, c'est qu'ils sont vrais.
Alors, on franchit le temps, puis on arrive à un épisode qui est tout à fait essentiel dans le livre. C'est la maison de Montauban.
Oui.
D'ailleurs, en vous lisant, j'avais les images de... du très beau film de Robert Enrico, Le Vieux Fusil,
ouais.
Dans le couple Noiret, Romy Schneider, je pensais
ouais,
à votre
vrai.
Papa. Je ne sais pas si vous y aviez songé.
Si, vous avez raison. Que,
bah, et puis, en plus, ça se passe tout près, quoi. Enfin,
ouais, oui, ça a été tourné. Ça a été tourné dans la maison, comment. On connaît tous les endroits. Ouais.
Et dans cette maison, vos parents vont cacher des Juifs qui sont de passage, puisqu'on n'est pas très loin de la ligne de démarcation aussi. Et puis, ils sont en route vers l'Espagne, quoi. Et donc, ça devient un lieu assez habituel pour
ça devient une sorte de relais.
De relais,
Parce que ça s'est passé par le bouche-à-oreille. Bon, parce et que mon vont... père était conseiller fiscal à Paris.
Oui, donc il était...
Dit, voilà. Il a un très beau cabinet. Bon, il quitte tout, parce qu'il se rend compte... C'est un génie, mon père, il avait tout prévu. Il avait prévu que ça se passerait comme ça, et qu'il ne pourrait pas arriver à élever ses enfants dans un Paris occupé par les nazis. Donc, il fout le camp. Dans la région natale, puisqu'il est né à Cahors, dans l'Aude, dans le sud-ouest, il a un terrain qu'il a acheté grâce à un ami, il fait construire une maison, et là, il s'embarque avec sa femme et ses enfants. Moi, je suis né à Montauban. Et il reprend son activité de conseil, beaucoup moins, évidemment, assidu. Montauban n'est pas Paris. Mais un client ancien de Paris l'appelle ou lui écrit, je ne sais pas, pour lui dire, écoutez, je pars, je quitte, je fuis le nazisme, et ce qui va se passer, est-ce que vous pouvez m'héberger le temps d'une nuit? Il dit, bien sûr. Donc il l'héberge. Et puis cet homme en parle à un autre ami, et peu à peu, il y a ce qu'on appelle un bouche-à-oreille, qui fait que la maison devient, non pas, attention, c'est pas non plus Ils ont dû, sur l'espace de 2 ans, puisque ça dure à peu près 2-3 ans, cette histoire, protéger ou héberger, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine.
Ils sont faits juifs entre les nations, ou Yad Vashem, alors,
hein. Oui, beaucoup plus tard, Yad Vashem, qui est une institution à Israël essentielle, qui, pour, non pas célébrer, mais pour préserver la mémoire de la Shoah, a créé cette institution qui reconnaît les gens qui ont aidé les Juifs pendant la guerre, et il y en a eu beaucoup plus qu'on croit.
Bien sûr.
On a tendance à dénigrer son pays. Et on dit, c'était la France, et les collabos, la délation, marché noir, tout ça. Bon, peut-être. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens, et en particulier dans le sud-ouest, forcément, puisque c'était sous la ligne de démarcation, et que pendant les 2 premières années de l'Occup, c'était un pays libre. Il n'y avait pas les Allemands. Donc, il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de justes. D'ailleurs, il y a un bouquin entier, un dictionnaire des justes. Et donc, effectivement, ils ont honoré mon père et ma mère.
Alors, là, il y a une scène que vous écrivez, avec la petite Dora, qui est cachée, là, arrive de flics, de miliciens, enfin, des supplétifs de la police de Vichy, qui, en gros, viennent la chercher, quoi.
Ouais,
hein.
Ouais.
Il y avait 2 fermes qui étaient attenantes à cette maison de Montauban.
Mon père avait acquis...
Vous dites, d'ailleurs, c'est tout près de cette fameuse rivière, le Tescou, là, qui a fait l'objet du barrage de Sivin.
Oui, qui a fait l'objet d'une mort. Un manifestant qui a été tué. Hein.
Et donc, et là, vous êtes témoin de cette scène, où c'est...
Ah oui, oui. Ah ben oui, si, d'ailleurs, je raconte.
Non, mais c'est pour savoir si c'était la part romancée.
Non, pas du tout. Enfin,
et vous en souvenez?
Je la reconstitue, mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ouais.
Parce que vous avez quoi, 6 ans ?
Oui, 6 ans. Ouais. On ne ment pas sur sa vie, mais on la reconstitue.
Ouais.
C'est jamais complètement exact, parce qu'on interprète. Toujours est-il qu'effectivement, on est dans la cuisine, il doit être 16 heures à peu près, le goûter, Dora, qui est cette juive qui vient d'Autriche, qui elle aussi est hébergée, mais qui elle n'a pas voulu quitter la villa, et qui est devenue pratiquement... comme une sœur pour ma mère, et comme une sorte de nounou pour nous. Parce qu'il faut s'occuper des 4 garçons, parce qu'il faut voir que c'est un capharnaüm. Hein. On est tous dans la même pièce, les oreillers volent le soir. Bon, donc Dora nous aide, et Dora, c'est de l'amour. Bien. Et Dora est avec nous, ma mère, par la fenêtre, voit la silhouette de ces 2 hommes vêtus de noir. Les hommes vêtus noirs, à l'époque, ça voulait dire la milice, hein, ça voulait dire la police, ça voulait dire les méchants. Mmh. Appelons ça comme ça pour parler comme les enfants. Hein. C'est pas les gentils. Mmh. Bon. Et à la seconde où elle les voit, c'est là où elle me fascine, Netka. Elle a l'intuition que c'est le danger, et elle crie tout de suite à Dora, va-t'en, pars, va-t'en. Et il était prévu que s'il y avait quoi que ce soit...
Oui, vous aviez fait repérer les...
On descendait une sorte de grande descente, de grande pente de notre jardin, qui était assez grand, pour traverser le Tescou à pied. Ben, le Tescou, à l'époque, à cet endroit-là, c'était un filet d'eau. Et remonter vers une des fermes, où là, ils ont planqué, ils ont caché des Juifs. Même certains d'entre eux sont restés toute l'occupation là-haut dans ces fermes. 2 fermiers, 2 métayers.
Et là, elle vous a montré, votre maman, un acier. Vous dites, elle est en acier.
Ben oui, l'oiseau en acier. Qu'est-ce qu'elle fait? Attendez. Donc, Dora fout le camp. OK. Elle prend ses 2 enfants, mon frère Jacques et moi-même, puisque Claude est trop petit, et Jean-Pierre, il n'est pas là, je ne sais pas, il est au lycée. Bon. Et elle tient ses 2 enfants par la main, elle va dans le chemin, un long chemin qui menait de la grille de l'entrée à la villa, pour se mettre face à ces hommes et en fait faire rempart, faire une barrière. Et elle n'est pas physique, la barrière, parce qu'il pourrait la renverser d'un coup de main, mais elle est dans son comportement, son sang-froid et sa langue, sa dialectique. Qui êtes-vous, messieurs? Voulez-vous montrer vos identités? Et elle les démonte un peu, c'est des crétins, hein. c'est 2 connards absolus. Et ils sont un peu saisis par... la dureté et la froideur de ma mère, qui leur dit, écoutez, quelle légitimité avez-vous à pénétrer dans une propriété privée? Oui, nous voulons voir si vous hébergez une certaine Dora Kramer. Donc ça veut dire qu'on a été dénoncé.
Oui, monsieur.
Hein. Bon, ça, c'est un problème qui a été résolu beaucoup plus tard. Et elle dit, je ne sais pas de quoi vous parlez, mon mari n'est pas là, c'est mon mari qui est le propriétaire de cette maison. Vous reviendrez quand il sera là, mais... vous êtes chez moi et je n'attends rien de vous. D'abord, qu'est-ce que c'est que ces papiers? Le type qui tente des papiers, il n'y a même pas.
C'est une généralité.
C'est des bidons, c'est des faux flics, ouais. c'est des nuls. Et pendant ce temps-là, dans sa tête, elle se dit, où est Dora?
Oui.
Est-ce qu'elle a traversé?
J'ai gagné du temps le plus possible.
Est-ce qu'elle est déjà là-haut vers, dans la ferme? Puisqu'elle a gagné du temps. Son problème, c'est de gagner du temps. C'est pour ça qu'il y a ce dialogue qui s'engage. Et donc, je suis le témoin avec Jacques, qui fait qu'elle nous démontre là dureté, sang-froid, intuition, jugement, et le contraire, effectivement, du petit oiseau dont parle mon père, qui d'ailleurs sait bien que ce n'est pas un oiseau, puisque quand ils ont décidé tous les deux d'héberger les Juifs, il lui en a bien parlé à elle, et elle a dit évidemment, on le fait. Donc elle est aussi juste par une nation qu'est mon père.
Je voudrais évoquer quand même votre oncle, Henri, parce que c'est
aussi une histoire. Hein.
C'est le héros de la famille, c'est lui aussi, un de plus. Hein. Je dis au passage d'ailleurs cette phrase, juste je reviens sur votre maman à propos de Yad Vashem hein, et de juste entre les nations. Elle a cette très belle phrase, elle dit « Oh, c'était pas très difficile, c'était normal, on les aimait ». C'est une très belle phrase. Ça. Alors, Henri, il est officier, il va avoir une carrière militaire tout à fait remarquable et il va rejoindre les forces françaises libres alors qu'il est en Syrie. Ouais. Il va faire ce qu'on appelle l'armée d'Afrique, enfin avec Koenig. Ouais, ouais. Il fait toute la campagne d'Afrique du Nord. Ouais. Et puis, il est tué au Garigliano, enfin sur les pentes du Monte Cassino, le 16 mai 1944, il est commandant.
À la tête d'une troupe dont les autres officiers ou sous-officiers ou caporaux au Vietnam étaient tous abattus.
Voilà,
si bien qu'il était le chef de cette section et il s'est mis au devant comme le héros. Quoi,
c'est le premier, en avant, le premier bataillon d'armée du Pacifique d'ailleurs.
Oui,
il y a beaucoup de Polynésiens. Et alors, vous ne le dites pas dans le livre, mais je pense que vous savez qu'en plus, à Monte Cassino, c'est là où il y a eu le plus de tués polonais dans l'armée Anders, parce que c'est un lieu de massacre des Polonais qui combattaient aux côtés des Alliés, avec le général Anders, qui ont pris autant que les Français sur les pentes du Monte Cassino.
Je savais pas.
C'est assez saisissant de voir qu'il meurt sur le terrain de ses frères polonais, avec ses frères polonais.
Ça s'appelle les convergences, ça, mon cher.
Alors, je voulais quand même... Par curiosité, je suis allé voir sur le site des 1038 compagnons de la Libération, parce que quand même, c'est pas rien. Votre oncle est fait compagnon de la Libération. Je rappelle qu'il y en a 1038, hein, que c'est un ordre qui est en extinction.
Oui, il en reste
aujourd'hui, en 12, je crois.
10 ou 12.
Oui, et que le dernier sera dans la crypte du Mont Valérien. Et alors, vous l'avez certainement vu, la notice biographique de votre frère, la photo...
De mon frère.
De votre oncle, excusez-moi. La photo... Avec son calot sur la tête, c'est saisissant.
Il est beau. Hein.
C'est le regard de votre maman, mais c'est impressionnant.
Ouais,
hein.
Ouais, ouais.
C'est vraiment. J'ai regardé hier soir. Et voilà ce qui est dit. Henri Magny, le nom de ma reine, est né le 4 janvier 1910 à Villepinte, en Seine-et-Oise, d'un père polonais et d'une mère française qui disparurent au moment de la Révolution russe. Il fut adopté par Madame Magny.
Ouais.
Donc votre grand-mère maternelle est sur le site officiel des Compagnons de la Libération considérée comme ayant disparu au moment de la Révolution russe.
Non, elle n'a pas du tout disparu.
Mais c'est tout à fait étonnant. Comme,
non, ce qui était émouvant, bien sûr.
Ouais. Alors, sur votre oncle...
Dont ma reine était fière, d'ailleurs. Elle était fière qu'il soit mort au combat. Et elle a toujours entretenu sa mémoire. Moi, j'ai un paquet comme ça de documents, des médailles, toutes sortes de choses de cette division...
Du Pacifique.
Du Pacifique, pour des gens extraordinaires, un grand héroïsme. Et oui, ça fait aussi partie, c'est ça qui m'a intéressé dans ce livre, c'est le fond de décor d'une partie du XXe siècle.
Bien sûr, bien sûr.
Il y a la Révolution russe, les bolcheviques, il y a l'occupation, il y a la guerre, la Troisième Guerre mondiale, la libération. Tout ça fait... Il y a de l'histoire avec un H majuscule à propos d'une histoire avec un H minuscule.
Les circonstances dans lesquelles vos parents apprennent la mort d'Henri sont terribles. Hein. Ce sont des soldats qui sont là, démobilisés.
Ouais.
À Montauban, ils les interrogent. Est-ce que vous avez connu le commandant Magny? Puis tout d'un coup, il y en a un qui dit « Mais oui, mais il est mort.
» Oui, ça, c'est la brutalité de la vie. C'est-à-dire qu'ils étaient, on avait appris qu'il y avait toute une tout un paquet de soldats démobilisés sur un terrain vague en bas de la ville, près du stade mythique de rugby de Sapiac, et où donc les gens, il y avait des infirmiers, il y avait des, tout ça, c'était un va-et-vient extraordinaire. Et papa et maman nous emmènent, Claude et moi d'ailleurs, pour essayer de recueillir quelques renseignements. Magny, le commandant Magny, vous connaissez ? Non. Et tout d'un coup, il y a un type qui se retourne en disant « Ben oui, Magny, bien sûr, il est mort. » Devant ma mère. Oui, c'est son frère. C'est le nouvel abandon.
Oui, un de plus.
Le plus cruel.
Et vous dites, et vous terminez, alors il y a dans votre livre cette référence, en quelque sorte, qui est une question, qui est la question qui est tout le temps sous-jacente au texte. Hein, je vais vous laisser raconter... l'appel de Marie-Élise Tarrard, ouais. Tout d'un coup, après la libération. Hein, ça, c'est une scène qui est très extraordinaire dans le livre. Ouais. Et puis après, il y a cette question, c'est « Pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Ouais,
cette fameuse phrase qu'on retrouve dans « La Passion du Christ » dans « La nuit du jeudi saint hein, ». Et qui est la question que le Christ pose à son père. Et c'est une question que vous avez le sentiment que votre maman... Se l'est toujours posé à tout.
Elle s'est peut-être beaucoup posée, mais elle n'a jamais voulu la poser, puisqu'effectivement, sa mère, donc ma grand-mère, à la libération, quelques temps après, découvre, je ne sais comment, elle dit que c'est par la Croix-Rouge que nous existons, qu'il y a un homme qui s'appelle Jean Labro, qui a épousé Netka et qui a fait 4 enfants. Et elle téléphone, ça se passe par le téléphone, là, cet objet bizarre, étrange, gros, bakélite
noir,
avec des écouteurs. Mmh. Pour dire, voilà, je suis Madame Tara, et vous ne me connaissez pas, mais je m'appelle Carizet, je suis la mère de votre femme, je sais que vous avez fait des enfants, j'aimerais évidemment revoir ma fille, et connaître mes petits-enfants. Et mon père lui dit, écoutez Madame, je vais poser la question. Parce que mon père considère que ce n'est pas à lui à dire oui ou non.
Surtout que vous dites qu'il n'a jamais, en plus, fait de reproches.
Non, il ne juge pas. Il ne juge pas. D'ailleurs... Qui sommes-nous pour juger Marie-Élise ? Nous ne savons pas pourquoi elle s'est comportée comme ça. Peut-être était-elle elle-même habitée par un désespoir tel qu'elle ne pouvait pas s'occuper des enfants. Je ne sais pas. Bon. Donc il pose, c'est une scène que j'ai évidemment reconstituée, sauf que nous étions là dans le jardin. Il pose l'écouteur, descend l'escalier dans le jardin où ma mère est en train de jouer avec nous, et lui dit, Netka, j'ai ta mère au bout du fil, elle nous a retrouvés, et évidemment, elle veut nous revoir... et revoir les petits-enfants, et connaître les petits-enfants. Et ma mère, comme avec Dora, n'attend pas une seconde pour dire non. Non. Et mon père, quand même, il écoute, c'est leur grand-mère. Quand même, il emploie le mot quand même. Elle dit, il n'y a pas question, je suis libre, c'est mon choix, je ne veux pas. Donc il remonte, prend le téléphone, lui dit, écoutez madame, votre fille ne veut pas vous voir. Et au téléphone, la voix... Elle appelle de Paris, la standardiste, parce qu'à l'époque, ne quittez pas monsieur, on vous parle de la capitale. Puisqu'à l'époque, on n'appelait pas Paris, Paris. Les opératrices de Montauban disaient, on vous appelle de la capitale. Et donc, il la reprend, et il lui dit, madame, votre fille ne veut pas vous. Et elle dit simplement, très bien, je comprends. Il y a un grand silence, et mon père se dit, bon, on en reste là. Et il dit, au revoir, il raccroche. Et donc, moi, après, quand j'ai appris tout ça, bien sûr, j'ai dit à ma mère, mais t'aurais pu au moins passer une heure avec elle. Pas forcément dans la maison. Tu la vois quelque part, dans le hall d'un hôtel, et tu lui demandes pourquoi elle vous a abandonné. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela ? Je me suis mis à sa place. Mais on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un. Ça aussi, c'est une chose, un cliché que je ne supporte pas. C'est, mets-toi à ma place. On ne peut pas se mettre à la place des gens dans des situations aussi fondamentales, aussi importantes, aussi essentielles. Et elle m'a dit, non, moi je ne voulais pas, elle nous avait fait trop de mal. Henri et moi la détestions. Nous avions fait un pacte, et j'ai respecté le pacte. Il n'était pas question de la revoir. Terminé.
C'est ce coup de fil de Marie-Élise est postérieur à l'annonce faite à votre maman du décès d'Henri.
Ça doit être à peu près la même époque. Oui, c'est intéressant la question que vous posez. Ça, je ne sais pas. Je n'arrive pas à situer dans les dates. C'est très intéressant.
Parce qu'elle pouvait peut-être se sentir investie en plus de la,
oui,
de la responsabilité du pacte passé sûrement. Avec son frère.
Oui, oui, c'est sans doute ça. Oui. Oui, oui. Sans doute savait-elle déjà que le frère n'était plus là. Mm-hmm. Donc tout ça fabrique une vie, un personnage.
Eh bien, c'est le mot, je pense, qu'on peut retenir. C'est une belle vie et des belles vies, parce qu'on peut dire qu'on a des personnages qui sont des personnages à la fois, comme on dit, dans la vraie vie, mais des personnages de roman, puis des personnages de cinéma. C'est pour ça que j'ai fait des références cinématographiques. Je termine par une. Hein. Tout sur ma mère, il n'y avait pas de Roald Amodovar, et maintenant, il y a vous.
Oui, enfin. C'est pas tout voilà. À fait la même chose.
Merci à toutes et à tous de votre
attention. Merci beaucoup.
Merci Philippe Labreau.